Matin Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le Yémen n'en finit pas d'être écartelé par ses différentes rébellions. Celle des Houthis s'est provisoirement achevée par un accord dimanche dernier sous l'égide des Nations Unies. Les Houthis dont nous parlons dans un instant. Des marines américains à l'assaut de Tripoli, cela se passe au début du 19e siècle. Une histoire vraie et rocambolesque que raconte le dessinateur Youssef Daoudi dans une bande dessinée intitulée Tripoli. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La rébellion chiite des Houthis refait parler d'elle au Yémen. Après plusieurs jours de combats dans les rues de la capitale, Sanaa, elle a finalement signé un accord de retour à la paix sous l'égide des Nations Unies, c'était dimanche dernier. Franck Mermier, bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, spécialiste du Yémen, où vous avez vécu plusieurs années. Qui sont exactement ces rebelles Houthis? Est-ce une ethnie, un mouvement politique ou religieux?
Alors, c'est ce qu'on appelle les rebelles Houthis ont en fait un parti politique qui s'appelle Ansar Allah, les partisans de Dieu. Ils sont principalement situés dans les régions nord du Yémen, c'est-à-dire notamment dans la région de Saada au nord, donc une province qui jouxte l'Arabie Saoudite, et ils s'étendent aujourd'hui jusqu'à Sanaa. Et ils se réclament d'une identité zaydite, d'une branche du chiisme, qui avait été, cette branche du chiisme avait régné finalement au Yémen jusqu'en 1962 sous la forme d'un imamat, et eux-mêmes se revendiquent de cette identité et combattent contre la diffusion du mouvement salafiste dans leur région, ainsi que par finalement contre aussi le parti islamiste qui est aussi implanté dans leur région et qui est, disons, proche des frères musulmans. Donc c'est un renouveau, si l'on peut dire, d'une identité zaydite qui avait été occultée depuis la révolution de 62 et l'instauration du régime républicain. Et c'est ce mouvement houthiste, du nom de son leader Abdelmalek al-Houthi aujourd'hui, mais autrefois son frère, est donc implanté essentiellement dans la région septentrionale du Yémen, dans les hauts plateaux yéménites.
Est-ce que c'est un mouvement qui est soutenu par la population? Est-ce qu'il a d'ailleurs une action sociale forte sur ces zones?
Alors, ce mouvement est depuis 2004 en lutte ouverte contre le gouvernement yéménite. Alors, dans un premier temps, contre l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Donc, il y a eu 6 guerres depuis 2004. Ils ont aussi mené des guerres à l'intérieur de leur région, non seulement contre l'armée yéménite, mais aussi contre d'autres factions tribales ou partis politiques qui ne sont pas de leur bord, c'est-à-dire à la fois contre les salafistes ou contre le parti islamiste Al-Islah, donc qui est dirigé par un chef tribal qui est dans la région de Sanaa, enfin très au nord de Sanaa. Et donc finalement, ils ont un appui populaire certain, puisqu'il leur a permis d'avancer même territorialement et militairement depuis 2004. Et dans le même temps, ils ont aussi en face d'eux de fortes oppositions populaires aussi, notamment dans les régions qu'ils gouvernent. Là, actuellement, ils essayent de s'étendre dans l'est du pays, dans le nord-est du pays, dans la région du Djouf, et là, ils sont en but à une opposition armée de la part d'autres tribus. Et puis, dans le reste du Yémen aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de yéménites, qui sont contre ce mouvement, qui, quand même, se réclament de cette identité zaydite fortement associé à l'imamat, donc à un côté extrêmement réactionnaire, et puis aussi parce qu'il constitue une milice armée qui, là, tout récemment, a imposé sa loi, finalement, à Sanaa, et a suscité un changement politique, non pas à travers un processus de dialogue, mais à travers l'imposition de la loi militaire, quoi, d'un coup de force.
Franck Mermier, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les Houthis et l'organisation État islamique en Irak et en Syrie?
Alors, il faut bien distinguer, hein, d'abord parce que les rebelles zaydites, disons, les partisans de Dieu, Ansar Allah, se réclament finalement, on peut les mettre sous le label d'un chiisme politique, hein, ils sont proches du Hezbollah, ils sont aussi soutenus par l'Iran. S'ils développent une toute propagande contre les salafistes, contre ceux qu'ils appellent les excommunicateurs, les takfiris, donc c'est-à-dire Al-Qaïda, le Daesh, l'État islamique, etc. Donc ils sont en fait plutôt dans le camp de l'Iran, du Hezbollah, voire de Bachar al-Assad, puisque même ils ont envoyé certains de leurs hommes combattre en Syrie contre l'opposition armée. Donc on voit bien qu'ils se situent effectivement contre ce courant djihadiste sunnite qui se développe aujourd'hui dans le monde arabe.
Merci Franck Mermier, chercheur au CNRS, spécialiste du Yémen.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Des soldats américains au secours d'un émir à la reconquête de Tripoli, cela ne se passe pas de nos jours, mais en 1803. Et c'est une histoire que vous racontez en bande dessinée. Youssef Daoudi, bonjour.
Bonjour.
Vous signez à la fois le scénario et le dessin de cette bande dessinée intitulée donc Tripoli. C'est une page méconnue des tout débuts de l'État américain. Thomas Jefferson est alors président. Que vient faire l'Amérique au bord de la Méditerranée?
Il faut savoir que les États dits barbaresques étaient des régences plus ou moins indépendantes de la sublime porte du sultan à Istanbul. Et que ces États exerçaient un pouvoir sur les eaux territoriales, on va dire, ou les eaux méditerranéennes, en pratiquant la course, un petit peu naturellement comme le faisait la France aux Caraïbes. Nous avons donc un président, Thomas Jefferson, qui vient d'être élu et qui, quelque part, essaie de rétablir une certaine force militaire américaine. C'est pour cela qu'il va relancer la construction d'un certain nombre de bateaux, qu'il va refonder plus ou moins la marine américaine. Et l'incident qui va survenir, c'est celui de la déclaration de guerre du pacha Youssouf Karamanli à Tripoli.
Et il y a un bateau américain qui s'échoue sur un récif et qui est pris par le sultan.
Exactement. Youssouf. D'abord, il y a la déclaration de guerre pour des raisons de jalousie par rapport aux baies de Tunis et aux baies d'Alger. Plus de revendications, plus d'argent demandé, parce que généralement c'est un tribut qui était payé afin de garantir la paix maritime, on va dire. Et un blocus va être instauré par la marine américaine. Il se trouve que effectivement, en octobre 1801, il y aura la capture d'un très très grand vaisseau, le Philadelphia, qui va faire que tout l'équipage va être pris en otage.
Et pour les libérer, Thomas Jefferson fait appel à un ancien consul de Tunis, me semble-t-il, une sorte d'aventurier qui a aussi beaucoup d'argent et qui va monter une opération.
C'est William Eaton, c'est son nom, et une espèce de précurseur de Lawrence d'Arabie. C'est quelqu'un qui était fasciné par l'Orient, qui a eu des fonctions à Tunis, c'est un poète, un aventurier, et quelqu'un qui était un petit peu dans la grande tradition des gens un petit peu portés par une espèce de passion, des principes, etc. Vraiment qui sont issus directement des Lumières. William Eaton, effectivement, a eu un mandat de consul à Tunis où il a été en perpétuel conflit avec le bey de Tunis. Et il n'acceptait pas ce principe de tribu. Jefferson va en profiter pour faire appel à lui, car lui en a déjà parlé de cette question, et ils vont profiter du fait que Ahmed Karamanli, qui est le frère du fameux pacha Youssouf, et qui a été déposé par lui, ils vont essayer de s'associer avec lui pour reprendre d'une part le pouvoir à Tripoli et en même temps régler le problème militaire.
Et tout ça va démarrer en Égypte. Ils partent d'Égypte.
C'est absolument
une grosse opération.
Grosse opération. En fait, cette opération qui était effectivement grosse sur le papier était extrêmement modeste lors de l'application. Et effectivement, William Eaton va être obligé d'aller chercher Ahmed Karamanli, donc l'allié des États-Unis à ce moment-là, et qui va donner une espèce de caution à cette opération. Ils vont le chercher en Égypte et ils vont traverser le désert.
Alors avec quel équipage? Parce que ça, c'est insensé. Il y a des Américains, il y a des Grecs, enfin.
Voilà. William Eaton ne disposera à ce moment-là, et on lui a promis naturellement des renforts, ne disposera que de exactement 8 Marines.
Américains.
Voilà, dirigés par le lieutenant Presley O'Bannon. Et le reste, ce sera des mercenaires ou des tribus ralliées, etc., etc. Donc, tout ça va être une espèce d'expédition insensés, ils vont traverser le désert en direction de Tripoli, donc grosso modo 800 km de désert, et la première étape étant la forteresse de Derna qu'il faut absolument prendre. Donc on est encore en Cyrénaïque, on n'est pas encore en Tripolitaine. Et voilà, ce sera la première bataille de la grande campagne de Tripoli.
Alors, c'est un acte fondateur pour l'armée américaine. Pourquoi ?
Il faut savoir que cette campagne a été à l'origine à la fois, de l'hymne américain, du sabre d'apparat du corps des Marines, le sabre d'apparat qui, à l'occasion de cette campagne, a été offert par Ahmed Karamanli au lieutenant Presley O'Bannon pour au fait d'armes.
Ouais. À l'issue de la prise de Derna, d'ailleurs.
À l'issue de la prise de Derna. Et voilà, c'est...
Et dans l'hymne, on parle de des rives de Tripoli.
Absolument. Dans le premier couplet, on parle des galeries ou des murs ou ce que vous voulez de Montezuma et des rivages de Tripoli. Et vraiment, c'est quelque chose de qui est très très marquant. Et pourtant, bon, on entend cet hymne dans tous les films, particulièrement dans les grands films de propagande des années 40. Mais cette histoire n'est pas très très marquante dans l'imagerie qu'on se fait de l'armée américaine.
Est-ce que vous avez découvert en faisant votre bande dessinée, votre livre, que finalement la Libye entre il y a deux siècles et aujourd'hui n'avait pas beaucoup avancé, était toujours dans la même situation avec des pouvoirs locaux et pas d'État véritablement?
Bon, ça c'est la problématique d'un certain nombre de pays de la région, l'Orient complexe, l'Orient difficile, l'Orient compliqué. Ce sont des pays qui, sortis de l'indépendance, n'étaient pas encore tout à fait indépendants pour des raisons politiques, et puis n'ont pas opéré suffisamment de réformes culturelles et de réformes politiques pour pouvoir entrer dans le XXe siècle. Je ne parle même pas du XXIe siècle.
Merci Youssef Daoudi, auteur donc de Tripoli, une bande dessinée publiée chez l'éditeur Glénat.
Merci à vous.
C'est un bluesman comme il y en a peu au Moyen-Orient. Ali Sleek a un pied au Liban, un autre au Koweït. Dans Them Blues Is Coming, enregistré en 2012, Ali assure la voix et tous les instruments, sauf la batterie. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem retrouver Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la guerre contre Daesh, l'organisation de l'État islamique, fait évidemment la une de vos journaux.
Oui, des journaux qui estiment que l'on est enfin passé aux choses sérieuses. Alors militairement, en bombardant les raffineries et puits de pétrole tombés sous la coupe de Daesh, et dont la production était vendue à des prix cassés pour financer le mouvement. Politiquement, en faisant pression sur la Turquie pour qu'elle contrôle sa frontière et fasse cesser le trafic commercial avec Daesh ainsi que le passage de renforts djihadistes. Les éditorialistes s'en prennent aussi à Barack Obama, le président américain, accusé d'être un George Bush au rabais. Le premier voulait s'en prendre à ce qu'il appelait l'axe du mal, tandis qu'Obama veut combattre ce qu'il a baptisé le réseau de la mort, écrit un journaliste.
Et pour la presse arabe, Alexandre, la guerre contre Daesh a désormais son héros, ou plutôt son héroïne.
Oui, une héroïne qui s'appelle Mariam El-Mansouri, littéralement Marie de la Victoire. Elle est émiratienne, elle a 35 ans et elle a commandé l'escadrille de F-16 qui a participé au bombardement de Daesh. Les journaux annoncent comment le commandant américain du ravitailleur en vol lui a demandé incrédule son nom et son grade, ne croyant pas que les Arabes puissent avoir une femme pilote de chasse. Jusqu'à ce que Al-Mansouri lui dise sèchement « Alors, vous me ravitaillez ou quoi ?» Un éditorialiste écrit que pour Daesh, se faire bombarder par une femme doit être le pire cauchemar.
En tout cas, bravo à cette Marie. La presse israélienne Michel Paul fait la pause depuis jeudi en raison de la fête de Rosh Hashanah, le jour du souvenir. Et le week-end, c'est le week-end le plus long de l'année également.
Absolument. Les derniers journaux avec d'énormes suppléments sont sortis mercredi et à retenir des interviews accordées notamment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à plusieurs quotidiens et autres médias. Au seuil de cette nouvelle année juive, nous sommes dans une meilleure situation face à une réalité plus difficile, proclame Netanyahou dans Israel Hayom, le journal proche de son parti, le Likoud. Dans une interview au Jerusalem Post, le Premier ministre israélien réaffirme ce qu'il a avancé tout au long de l'opération Bordure protectrice cet été. Notre combat contre le Hamas est l'équivalent de la lutte du monde occidental contre Daesh. Dans le passé, on m'a accusé de tout voir en noir. Mais qui avait raison en fin de compte, demande-t-il. Nous devons continuer nos efforts pour arriver à la paix, mais on ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous, dit encore le Premier ministre israélien. Et le président israélien, Reuven Rivlin, affirme pour sa part qu'après un été particulièrement difficile, c'est maintenant un nouveau commencement pour les Israéliens.
Et à propos de nouveau commencement, Michel Paul, vos journaux en profitent pour publier quelques sondages.
En cas d'élection, pas de grand changement, c'est toujours Benjamin Netanyahou et son parti, le Likoud, qui arrivent en tête. Mais ce qui est plus intéressant, Eric, c'est que pour 55% des Israéliens, la situation sécuritaire s'est détériorée par rapport à l'année dernière. 56% des Israéliens se disent heureux, 26% nagent carrément dans le bonheur. Seuls 28% des personnes interrogées envisagent de quitter le pays.
Et on ne vous demande pas dans quel camp vous vous trouvez, Michel. Alexandre, beaucoup de journaux reviennent sur la situation politique au Yémen que nous évoquions avec Franck Mermier tout à l'heure et qui se dégrade en ce moment.
Oui, le Yémen où les rebelles houthis ont pris la capitale Sanaa et exigent un changement du pouvoir. Alors les houthis sont une secte chiite minoritaire dans un pays à majorité sunnite. Des houthis qui sont soutenus selon les journaux par l'Iran et le Qatar. Dans le passé, l'aviation saoudienne les avait bombardés, mais aujourd'hui, on joue au billard à trois bandes. Les Houthis sont les ennemis de l'organisation extrémiste sunnite Al-Qaïda, donc on les laisse faire jusqu'à un certain point.
Michel Paul, la question des demandeurs d'asile revient à nouveau sur le devant de la scène en Israël.
C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit ici en Israël. La Cour suprême a décrété inconstitutionnelle la loi permettant d'incarcérer demandeurs d'abri en provenance des pays africains, notamment l'Érythrée et le Soudan. Le quotidien Haaretz fait remarquer qu'outre la question de ces réfugiés eux-mêmes, ce sont les rapports entre les pouvoirs, le judiciaire et le législatif qui sont mis à rude épreuve.
Également, Michel, la presse analyse les dernières données démographiques.
Israël compte près de 9 millions d'habitants, dont 6 millions de juifs, un chiffre très symbolique bien sûr. Une balance positive cette année, plus d'habitants, plus de naissances et aussi plus d'immigrants. Et ce sont les juifs français qui sont en tête de cette liste de l'immigration.
Un sujet dont nous parlerons la semaine prochaine dans Orient Hebdo. Merci messieurs, merci également à Mathias Teller qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Sachez encore que l'émission géopolitique de demain dimanche sera consacrée à l'Iran. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.